Je me souviens du message que notre frère Antoine a donné, non pas dimanche dernier, mais dimanche d'avant, parce que j'étais pas là dimanche dernier, où il nous encourageait à aller de l'avant et nous encourageait à ne pas regarder en arrière, mais à regarder devant, parce que il faut avancer. Dieu nous invite à avancer et la récompense est devant. Et dans Genèse chapitre 11, les textes vont s'afficher, je vais les lire pour vous. On va s'intéresser à l'histoire d'un homme qui est très connu dans la Bible, c'est Abraham. Et s'il y a bien quelqu'un qui est allé de l'avant, qui a bougé dans sa vie, c'est Abraham. Je lis le passage avec vous, lisons ensemble. Terah partit d'Our en Chaldée, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. On retient ça, mais arriver à Haran, ils s'y établirent. Est-ce que c'était le projet à la base ? Pourtant, c'est loin, hein ? C'est très loin. Et là, il n'y a pas de Ouigo, il n'y a pas de Flixbus, il n'y a pas tout ça. Hein ? Il faut tout charger, il faut marcher. Terah a vécu 205 ans, et c'est là où c'est terrible, puis il mourut à Haran. Ce n'était pas là où Dieu voulait l'emmener. Dieu avait un plan pour lui et il a engagé toute sa famille. Allez, on y va. Dieu m'a montré une direction, j'ai une vision de Dieu et c'est indéniable. La Bible le dit. Il a reçu quelque chose. Dieu lui fait une grâce, une faveur, il se révèle à lui, il lui parle et on peut le dire, c'est un homme de Dieu. Il entend Dieu, il comprend ce que Dieu lui dit. C'est clair, c'est précis et il s'engage et il y va. Mais il s'est passé quelque chose, au bout d'un moment, il s'est arrêté. Et c'est peut-être déjà arrivé à l'un parmi nous. Dieu t'a parlé, Dieu s'est révélé à toi, il t'a fait du bien, il t'a béni. Il t'a montré une direction, il t'a dit « Allez, on y va !» Et puis, bah, vous connaissez la parabole du semeur. La parole de Dieu est envoyée, elle tombe dans différents terrains et parfois on peut se laisser étouffer par plein de choses. Parfois, l'ennemi arrive à voler ce que Dieu nous a donné. On n'a pas de détails. Alors, je ne sais pas si vous trouvez la Bible épaisse. Je fais partie de ceux qui aimeraient qu'il y ait encore plus de pages. Voilà. J'aimerais avoir plus de détails. Mais on a une révélation complète. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Second verset, Genèse chapitre 15, verset 7. Cette fois-ci, Dieu parle à quelqu'un d'autre. Il parle au fils de Terah. Alors, il s'appelle Abraham, mais on va l'appeler Abraham. C'est le même homme. Mais au début, il s'appelle Abraham, et puis dans son cheminement avec Dieu, Dieu va changer son nom. Et si vous voulez bien, ce matin, par commodité, on va l'appeler Abraham tout du long. Ça vous va ? Faudra bien, de toute façon. Alors là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il se révèle à lui. Il lui dit « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Alors j'ai une question pour vous ce matin. Qui a fait sortir Abraham d'Our en Chaldée? C'est son père ou c'est Dieu? Parce qu'on a lu les deux versets. Hein. Dans le premier passage, Terah prend toute sa famille, dont son fils Abraham, et il les emmène. Et là, Dieu se révèle à Abraham et lui dit, c'est moi qui t'ai fait sortir de cette ville. C'est moi qui t'ai conduit. Alors la question se pose. Et quand on regarde les circonstances de nos vies, parfois, les vacances, l'été se prêtent un peu à ça. On peut avoir un peu de temps pour soi. On s'assoit, on réfléchit un peu à sa vie, les choix qu'on a pu faire, les endroits où on a vécu. Est-ce que tu vois la main de Dieu dans ta vie? Ce n'est pas toujours sensible. Ce n'est pas toujours éclatant. Mais Dieu est à l'œuvre constamment. Quand toi, tu as l'impression de faire des efforts, c'est rien en comparaison de tout ce que Dieu est en train de déployer dans ta vie. Et nous, des fois, on l'oublie. Dans le livre des Proverbes, il est dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Fais-lui confiance. Donne-lui la main. Confie-toi. C'est pas je mets un pas, c'est je me mets en entier. Et que dit la suite du verset? Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ton savoir-faire, tes compétences, tes projets. Voilà, fais confiance à Dieu. Tout ce que tu as en toi n'est pas forcément mauvais. On a tous plein de bonnes idées. Je suis sûr, si vous demandez à Antoine, est-ce que tu as des idées pour l'Église? On sera peut-être là encore demain, non? Il y a plein de bonnes choses en nous. Mais il faut réussir à, non pas tout mettre de côté, mais à faire un peu le tri. Seigneur, il y a des choses qui viennent de moi, ce n'est pas forcément mauvais, mais Seigneur, qu'est-ce qui vient de toi? Et le texte continue. reconnais Dieu dans toutes tes voies. Est-ce que tu vois Dieu dans ta vie, dans les circonstances de ta vie? Pas toujours. En tout cas, je vais parler pour moi, je n'ai pas toujours cette conscience aiguë, fine, que Dieu est en train de faire quelque chose à un moment donné. Parce que je suis comme vous, je suis pris dans un quotidien, je vis, et je vois pas toujours, j'ai pas toujours conscience qu'il y a la main invisible de Dieu qui pousse les circonstances, qui pousse les gens, des rencontres. Mais on pourrait se dire, c'est Théra qui a reçu une vision, qui est partie, et Abraham l'a suivi. C'est vrai. Mais rien n'a échappé au contrôle de Dieu. Rien n'a échappé au contrôle de Dieu. Partout où il est allé, Dieu était là. Pas toujours sensible, invisible, mais Dieu oriente et conduit les circonstances. À partir du moment où tu fais confiance à Dieu, où tu lui dis, Seigneur, je te donne les clés de ma vie, maintenant c'est toi qui conduis, c'est toi qui dirige, eh bien Dieu va le faire. Et ce n'est pas parce qu'on n'en a pas conscience, qu'on ne le ressent pas, qu'il ne se passe rien. Dieu le fait. Et je suis sûr, ici, on pourrait être nombreux à rendre témoignage de, ben voilà, Dieu a conduit ma vie. J'ai un ami pasteur, il était en voyage, c'était les vacances au Sri Lanka. Formidable. Il avait économisé pas mal de temps avec toute sa famille, il se retrouve là-bas. Et comme souvent dans les vacances, il y a des choses qu'on ne prévoit pas, comme perdre toutes ses affaires. Plus d'argent, plus rien. Et là, il prie à son épouse, ses enfants, ils sont petits, et il prie, et bah, tout en respectant le lieu dans lequel ils se trouvaient, ils étaient dans l'aéroport, il fait approcher son épouse, ses enfants, bon, on va prier, on va demander, Seigneur, aide-nous. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, vous êtes en train de prier? Oui, oui. Ah, c'est vous alors, parce que Dieu m'a demandé de vous acheter des billets d'avion pour que vous puissiez rentrer chez vous. Alors lui, c'est... a presque du mal à y croire au moment où ça se passe. Il dit, oui, j'étais chez moi, j'étais en train de prier, et Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu vas aller à tel endroit, tel jour, à telle heure, et tu vas rencontrer quelqu'un qui a besoin de toi, et je te dirai ce qu'il faut faire. C'est Dieu ou c'est pas Dieu, ça? C'est Dieu. Mais même quand il ne semble pas y avoir le sceau de Dieu, parce que tu dépends de la décision des autres, Dieu conduit ta vie. Il faudrait qu'on arrive à se débarrasser de certains mensonges du monde. Parfois, on a certains absolus quand on parle, et on pourrait dire la vie est faite de choix, c'est vrai. Mais est-ce que la vie est faite uniquement de mes choix à moi? Pas du tout. Il nous arrive à tous de subir les choix des autres. Est-ce que pour autant, Dieu perd la main sur le fait de conduire ma vie, de m'emmener vers ce qui est bon pour moi? On aime beaucoup ce verset, hein. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est vrai, hein? Dieu fait concourir toutes choses. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Ça ne veut pas dire que tu vas tout contrôler, que tu vas tout savoir. Dieu est en train de te dire, quel que soit le chemin, au bout, je t'emmènerai là où je dois t'emmener. J'accomplirai ma promesse. Je vais te bénir. Et si on regarde dans la vie d'Abraham, à chaque fois qu'il a une révélation de Dieu, que Dieu vient à sa rencontre, Abraham avait une habitude, c'est partout où il allait, où il s'installait, bâtissait un hôtel. Il entretenait sa relation avec Dieu. Il entretenait le contact. Et à chaque fois, Dieu le rassurait. Je suis avec toi. Je veux te bénir. Abraham, il a un grand rêve dans sa vie. C'est quoi le plus grand rêve d'Abraham? Mais quand on regarde toute sa vie, c'est d'avoir des enfants. Est-ce que c'est un mauvais rêve? Non. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et il habite Our en Chaldée. Alors c'est vrai que nous aujourd'hui, dans notre civilisation occidentale, on a une très grande distance culturelle avec les personnages de la Bible. Parce qu'habiter une ville, ben, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de villes en ce temps-là. Habiter une ville, c'est être à l'abri derrière des murailles. Habiter une ville, c'est là où il y a de la nourriture, c'est là où il y a des entrepôts, il y a de la sécurité, il y a de la nourriture. Vous n'êtes pas... à toujours être à l'affût parce que des brigands pourraient venir vous agresser, vous voler, vous piller. Il est en sécurité derrière des murailles. C'est là où il y a le pouvoir politique. Alors si tu veux avoir une carrière, faut être à Our. Si tu veux être connu, si tu veux réussir dans la vie, c'est là où il faut être. C'est aussi le centre culturel de savoir. Les gens intelligents, ils sont pas perdus dans la campagne. Ils sont à Our. Il y a tout ce qu'il faut dans cette ville. Absolument tout. Et Abraham, il a un grand projet dans sa vie, c'est d'avoir des enfants. À votre avis, le plus haut niveau de médecine, il est où ? Dans les campagnes ou dans cette ville ? C'est évident, hein ? Il y a tout ce qu'il faut. Et Abraham, peut-être qu'il s'est dit, hein, je vous l'ai dit, moi j'aimerais qu'il y ait encore plus de textes dans la Bible. Mais en tout cas, en rapport avec son projet, le meilleur endroit, c'est Our. Parce que, merci Seigneur, la science a beaucoup progressé. Mais à cette époque, quand une femme tombe enceinte, c'est dangereux. Un accouchement, c'est dangereux. Il y a énormément de femmes qui meurent en couche. La mortalité infantile est très élevée. On est dans l'Antiquité, hein. Ce n'est pas les moyens d'aujourd'hui. Et cet homme aime profondément sa femme. Il rêve de fonder un foyer. Et voilà que Dieu dit à son père, on s'en va. Et on va marcher sur des milliers de kilomètres. On va aller au pays de Canaan. Abraham, il y va. Abraham, il y va. Parce que qu'il reste à Our, ou qu'il parte sur les routes comme Dieu lui a demandé, son projet, de toute façon, n'avait aucune chance d'aboutir à Our, parce que sa femme est stérile. Il y a beau avoir tout ce qu'il faut, ça ne suffit pas. Bien-aimé, entends ceci, qu'importe tout ce que tu peux mettre dans ta vie, et je prie pour que Dieu te bénisse abondamment. Comme dit Paul, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères. Je prie pour que Dieu vous donne tout ce qu'il faut, et même au-delà, pour que vous puissiez bénir les gens autour de vous. Mais ça ne suffit pas. La bénédiction ne suffit pas. Parce qu'il faut marcher avec celui qui bénit. Si tu cherches que la bénédiction, ça ne suffira jamais. Tu peux remplir ta vie de tout ce que tu veux, même si ce sont des bonnes choses, hein, ça ne suffira pas. Et Dieu lui dit, en quelque sorte, hein, parce qu'on ne va pas relire tous les textes, mais Dieu lui dit, je suis avec toi et on y va. Il y a un endroit où tu dois aller. Est-ce qu'on pourrait laisser afficher le second verset, Genèse chapitre 15, où il dit, je suis l'Éternel, Dieu se révèle à lui. Est-ce que vous avez déjà eu une révélation de Dieu ? Les chrétiens, les enfants de Dieu sont des hommes et des femmes simples, mais qui ont reçu une révélation. C'est-à-dire que Dieu nous a communiqué la foi, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la terre, qui est dans notre ADN. Dieu nous a donné la foi. Et la Bible, c'est plus qu'un livre pour nous, c'est la parole de Dieu. Elle prend vie dans notre quotidien, dans nos pensées, dans nos cœurs. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, s'étaient découragés, avaient parfois abandonné la foi. On trouve tout un tas de raisons, hein. Mais quand vous prenez le temps de vous asseoir avec eux, discuter, ils finissent tous par dire la même chose. Je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire que la Bible, ce n'est pas vrai. Mais le diable a réussi à élever des murs entre la présence de Dieu et leur vie. On va abattre quelques murs ce matin. Amen. Dieu lui dit, je t'ai fait sortir. Moi, ce que j'aime, c'est chercher les occurrences dans la Bible. Où est-ce que ce mot a déjà été utilisé pour comprendre la pensée de Dieu ? Parce qu'on va s'inspirer de ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham et on va chercher en quelque sorte des transpositions. Seigneur, ce que tu as fait dans sa vie, aide-moi à le comprendre pour que je puisse voir ton œuvre dans ma vie, pour que je puisse aspirer aux bonnes choses, aspirer aux choses d'en haut. Sortir, le mot est utilisé parfois pour dire éloigner. Dieu a fait partir parce qu'il voulait mettre une séparation avec quelque chose dans ta vie. Tu as dit non, ça c'est pas bon. Dieu nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a libérés, séparés de nos péchés. Dieu nous a fait grâce. Mais des fois, la grâce, on lui met des limites et des barrières. On a mis des murs parce qu'il y a des choses, on a du mal à s'en débarrasser. Je suis toujours surpris quand je prends rendez-vous avec un médecin et que ce médecin fume. S'il y a bien quelqu'un qui sait que c'est pas bon, c'est lui. S'il y a bien quelqu'un qui sait tous les effets néfastes que ça peut avoir sur la santé, c'est lui. Bon, je crois quand même ce qu'il me dit, hein, quand il fait son ordonnance, etc. Mais bon, pour moi, il n'y a pas un paradoxe, il y a un non-sens, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde dans ta vie, regarde dans ton cœur. Reconnais Dieu dans ta vie et Seigneur, il y a peut-être besoin que je m'éloigne de certaines choses, que ton esprit me parle, de certaines relations, de certains lieux. Il y a des endroits où un chrétien ne met pas les pieds. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y a des endroits où le chrétien, tu ne le verras jamais traîner. Parce qu'il peut y avoir un danger pour sa foi. me souviens d'un chrétien. Il était zélé, bon, un zèle un peu maladroit, hein, parce que avant de se convertir, il menait la grande vie, c'est la fête, lui, les boîtes de nuit, tout ça. Et il s'est converti, il a rencontré Jésus de manière authentique. Hein. Mais bon, il n'avait aucun arrière-plan chrétien, vous voyez, il découvrait tout depuis zéro. Et puis il continuait d'aller en boîte de nuit, il disait, mais là, je parle de Jésus. Je me souviens, notre pasteur à l'époque lui a dit, la musique doit être trop forte pour qu'ils entendent sa voix, non? Il ne s'agit pas de faire une liste des lieux où on peut se trouver ou ne pas se trouver. Mais il s'agit quand même d'avoir une séparation avec ce qui est mauvais pour nous. Ce qui est mauvais pour nous, c'est simple. Qu'est-ce qui m'empêche de m'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui m'éloigne de l'Église? Aucune Église n'est parfaite. Aucune. Mais un chrétien a besoin d'une Église. Un chrétien sans Église, tu peux avoir la plus grande connaissance biblique, tu peux être le meilleur adorateur, tu peux être tout ce que tu veux. Sans Église, tu es une proie. Voilà ce que tu es en réalité. Éloigné, séparé. Ce qui caractérise la vie d'un chrétien, c'est la capacité, entre autres, hein, de renoncement. Il est le cep, nous sommes les sarments. L'évangile selon Jean. Et on a besoin d'être émondé parfois. Dieu a besoin de couper afin que la plante puisse continuer à avoir la vie et puisse communiquer la vie. Mais peut-être que tu es dans une situation où tu dis, Seigneur, éloigne-moi. Je suis prisonnier des choix des autres. Je suis prisonnier de l'influence des autres. Seigneur, éloigne-moi. Seigneur, éloigne-moi. Libère-moi. C'est toi la clé. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Alors Seigneur, éloigne-moi. Mets-moi à l'abri. Parce qu'on peut éloigner pour nous séparer de quelque chose, mais on peut éloigner pour mettre à l'abri aussi. Seigneur, éloigne. Éloigne l'ennemi. Il viendrait comme un fleuve. Seigneur, tu le ferais fuir. L'ennemi vient à moi par un chemin, il s'enfuit par sept chemins, nous dit la Bible. Seigneur, éloigne-moi. Et mets-moi à l'abri, mets-moi à l'écart. Seigneur, ce que tu as fait à la croix, tu as pris sur toi. Je suis derrière toi. Amen. On continue. Sortir. Sortir, ça veut dire quoi aussi? Sortir, ça veut dire produire. Le mot parfois traduit dans ce sens de produire quelque chose. Alors, vous me direz si je me trompe, hein, mais de tout temps et peut-être encore plus aujourd'hui, on court après l'argent, non? Après tout, on ne fait rien sans argent. Tu veux manger, te déplacer, te vêtir, te divertir, tu veux te soigner. On a besoin d'argent, n'est-ce pas? On a besoin d'argent. Mais est-ce que c'est le manger et le boire le plus important? Est-ce que même ceux qui ont toutes les richesses, des fortunes incroyables, est-ce qu'ils ont tout pour autant? L'argent ne fait pas le bonheur. On le dit souvent, alors ce n'est pas marqué dans la Bible, mais on y trouve quand même une certaine sagesse. C'est vrai, hein? Mais Dieu te dit ceci, entends bien, quelle que soit ta vie aujourd'hui, si tu t'engages avec Dieu, si tu marches avec lui, Dieu dit ta vie va produire quelque chose. Si le grain de blé tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. On a vu qu'il fallait renoncer, mais dans ce renoncement, tu vas produire quelque chose de Dieu. Produire quelque chose de Dieu. Et ce n'est pas une question d'âge. Comme dit l'autre, avec moi, il n'y a pas d'âge. Tu ne parles pas d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Le Seigneur te dit, ta vie, il y a un projet, il y a un but. Tu vas produire quelque chose. Tu vas produire un fruit. Parce que si on ne porte pas de fruit, vous rappelez l'épisode de Jésus avec le figuier? Il passe une première fois, il n'y a rien dessus. Il repasse une deuxième fois, il n'y a toujours rien dessus. Et il pèse une malédiction sur ce figuier. Quelqu'un dont la vie ne produit rien, moi je sais ce qu'il ressent à l'intérieur. Il se sent maudit. Tu as besoin de produire. Mais on parle de quoi là? On parle de la vie de Dieu en toi qui a des effets dans la vie des autres. La vie de Dieu en toi qui a des effets dans la vie des autres. Tu es parent, tu veux que ça produise quelque chose chez tes enfants. Tu es le seul chrétien dans ta famille, tu veux que la vie communique aux membres de ta famille. Tu veux produire quelque chose. mais pas quelque chose qui sera purement terrestre, mais qui a une dimension spirituelle qui est céleste, qui va te suivre là-haut dans le ciel, parce que tout cet argent après lequel on peut courir, hein, ça restera en bas sur terre. Tu ne l'emmèneras pas au ciel alors que les œuvres bonnes préparées par avance, là tes œuvres que tu as accomplies conformément au plan de Dieu, parce que tu voulais obéir à Dieu, tout ça, ça va te suivre. Et il va y avoir des récompenses là-haut dans le ciel. Amen. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, parce que je ne vais pas redire ce qu'Antoine nous a dit il y a 2 semaines. Sortir, une autre occurrence, c'est emmener. Ça fait sortir, et on aurait pu traduire ici par emmener. C'est-à-dire que quand tu marches, que tu le sens ou pas, Dieu est là. Et que tu fais ce que tu veux, Dieu est là. Est-ce que vous vous rappelez de Joseph? On le met en prison, on le met dans un palais, la bénédiction est là. Pourquoi? Parce que tu le mettes dans une prison, que tu le mettes dans un palais, Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. C'était il y a très longtemps, dans le cadre de persécution, les églises étaient lourdement persécutées. Et ça se passait en France, dans le sud de la France. On ne va pas s'attarder longtemps sur les détails, mais un homme avait été emprisonné à cause de sa foi. Et cet homme dans la prison, il chantait les cantiques. Alors il était battu par les gardiens de la prison. Alors comme il disait, ça fait trop de bruit, je vais prier. Et prier pour tous ceux qui étaient là. Alors on lui a coupé la langue. Cet homme ne pouvait plus rien faire, le corps brisé, incapable de produire le moindre son. Qu'est-ce qui se passait à votre avis? Les autres détenus avec lui, tous n'étaient pas croyants, ils ont tous donné leur vie à Jésus. Parce qu'il émanait de cet homme la vie de Dieu. Toi, tu vois des limitations, Dieu n'en voit pas. On trouve toujours une raison pour laquelle ça ne peut pas. Et Dieu dit, ça peut. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. On n'est pas là à courir après des manifestations. Dieu bénit. Dieu bénit. Emmener, c'est parce que Dieu est avec toi. Dieu, il a attaché ta vie à la sienne. Et dans la mesure où tu dis « je marche avec le Seigneur », eh bien, il marche avec toi. Mais comprends bien ceci. Ce n'est pas un prétexte pour commettre des fautes. Ce n'est pas un prétexte pour devenir laxiste dans sa foi. Mais même quand tu n'es pas fidèle, la Bible dit « Dieu demeure fidèle ». C'est-à-dire que Dieu sait exactement qui tu es quand tu es seul. Dieu sait exactement ce qu'il y a au fond de ton cœur. Dieu voit au-delà des apparences. C'est ce qu'il a dit au prophète Samuel. Hein. Les hommes regardent à l'apparence, mais l'Éternel, lui, il regarde dans le cœur. Il sait tout. Et tu sais quoi? Il connaît ta part sombre. Il sait en toi ce qui ne va pas. Il connaît tes défauts. Il sait tes faiblesses. Il connaît tes fautes. Et ce n'est pas parce que nous avons un jour donné notre vie à Jésus que tout d'un coup, on n'a plus jamais commis aucun péché. Hein. Non, on est dans une lutte face au péché, mais une lutte victorieuse. Mais Dieu sait exactement. Et il y a dans la Bible un homme de Dieu, il s'appelle Zorobabel. Et il a une mission qui lui est confiée par Dieu, une œuvre de Dieu, il y a un plan de Dieu pour sa vie. Et dans un sens spirituel, l'adversaire l'accuse. Il a un vêtement qui est rempli de tâches, de fautes, de péchés. Tout ça est un langage spirituel, prophétique, imagé. Mais la parole de Dieu retentit. On lui enlève ce vêtement sale. On lui met un vêtement propre. Il te justifie. Ça ne veut pas dire que tu dois t'autoriser à commettre des fautes et des péchés. Mais Dieu change ton vêtement à chaque fois que tu en as besoin. Qu'a fait Jésus avec ses disciples? Il s'est accroupi avec les vêtements d'un esclave et il a lavé les pieds de ses disciples. Il sait que la marche sur la terre, ça salit. On est sali par plein de choses. Parce que même quand tu veux fuir le péché, il te court après. Mais le Seigneur, il est là, il continue cette œuvre de purification dans ta vie. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors tu dois faire ce qu'il faut, mais Dieu continue son œuvre de purification dans ta vie. Et il te purifie à chaque fois que tu en as besoin. Donc il t'emmène avec lui. Parce qu'il sait exactement qui tu es, tes faiblesses, tes manquements. Et il fait quand même un choix. Je te prends avec moi. Qui nous choisirait? Qui te choisirait? Comme dit la Bible, à peine mourrait-on pour un juste, mais pour un coupable. Qui mourrait pour un coupable? Jésus est allé à la croix pour toi et il le referait encore si c'était nécessaire, mais son sacrifice est parfait. Amen. Gloire à Dieu. On continue encore un peu. Vous voulez bien ? Sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants ? Donner, c'est donner, reprendre. Ah ouais. Alors bon, c'est pas dans la Bible, mais il y a une idée quand même qui rejoint une pensée biblique forte. Parfois, on est comme des enfants. On se dit, on n'a pas été à la hauteur, Seigneur, j'ai pas réussi, j'ai manqué. Et on croit que Dieu nous enlève sa présence. On croit que Dieu nous enlève ses bénédictions. Dieu ne se repent ni de ses appels, ni de ses dons. Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est-à-dire qu'il sait que tu es capable de tout rater dans ta vie. Il sait que tu es capable de... Et pas une seule seconde, il regrette de t'avoir béni, d'avoir tracé un plan pour ta vie. Combien de fois on a pris des chemins, on s'est perdu, on a fait perdre du temps à Dieu dans notre vie. Combien de fois on croit que c'est Dieu qui prend son temps, alors qu'en réalité, quand on est honnête, on a fait perdre du temps à Dieu dans notre vie. Parce que on perd trop de temps pour soi-même. Seigneur, à aucun moment il regrette d'avoir fait un plan pour ta vie. À aucun moment il regrette de t'avoir donné une bénédiction. Et c'est pour ça que des fois, je mets ça entre guillemets, il traîne un peu pour te donner certaines bénédictions. Parce qu'il veut que tu sois, que ce soit le bon moment, il veut que tu sois prêt, parce qu'il y a des bénédictions qu'il peut te donner tout de suite, tu vas gérer. Mais des fois, il y a des bénédictions, s'il te les donne tout de suite, tu ne vas pas gérer du tout. Tu risques de tout gâcher. Alors, des fois, Dieu te fait attendre un petit peu. Mais ce n'est pas pour te punir, ce n'est pas pour te faire courir, non, non. C'est parce que Dieu sait qu'il y a des bons moments pour certaines bénédictions. Alors, c'est vrai que nous, on n'aime pas attendre, peut-être vous. Je suis sûr que si on devait tous se demander si on est suffisamment patient dans la vie, il y a des prières qu'on fait assez peu. Seigneur, discipline-moi. Seigneur, bénis-moi. Oui, mais discipline-moi, Seigneur. Oui, mais je veux être un disciple. Établir ta discipline dans ma vie. Pas la discipline à la manière des hommes, mais la discipline de Dieu. C'est quoi cette discipline ? Jésus l'a dit, mon joug est doux. C'est-à-dire que ce poids qu'il met sur nos épaules, écoutez, ça défie la gravité, c'est-à-dire que c'est un poids qui nous élève en quelque sorte. Voilà le sens du texte. Dieu nous confie une responsabilité, une charge, alors que ça devrait peser sur nous, ça nous élève. Ça nous élève. Et ce joug, vous savez qu'on peut le mettre à deux animaux en même temps pour qu'ils puissent partager la charge parce que Dieu porte cette charge avec toi. Il sait quand c'est trop lourd, quand c'est trop dur, de toute façon, tu peux compter sur ses forces. Il partage sa force avec toi. Dieu est bon. Amen. Dieu donne. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Apôtre Paul aux Éphésiens. C'est-à-dire, quand je prie, malgré tout ce que je demande, je suis encore en dessous de tout ce que Dieu veut me donner. Un homme un jour a raconté ce songe qu'il a eu. Parfois, il y a des rêves qui viennent de Dieu. Tous ne viennent pas de Dieu, mais il y a des rêves parfois qui viennent de Dieu. Et cet homme se baladait au ciel avec un ange. Il faisait visiter le paradis. C'est incroyable. Splendeur, éclat, tout ce que vous voulez. Et puis ils arrivent dans un autre quartier du paradis où il y a des entrepôts avec des noms affichés. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il y a des noms affichés au-dessus de chaque entrepôt. Il y a marqué Antoine, Christiane sur un autre, Sébastien sur un autre, Lévi sur un autre. Puis il demande à l'ange qui lui fait visiter, mais c'est quoi tout ça ? Ça ressemble à des entrepôts, c'est pas ces villas glorieuses, etc. Il dit ça, c'est toutes les bénédictions qu'on a pour chacun, mais qu'ils n'ont pas encore demandé. Tant que tu limites Dieu, c'est toi que tu limites. Abraham aurait pu se dire, Seigneur, la route est longue, la route est dangereuse, la route est difficile. Qu'est-ce qu'il est dit du peuple lorsqu'ils erraient dans le désert, après avoir été délivrés de l'Égypte par Moïse ? Même les sandales de leurs pieds ne s'usaient pas. Est-ce qu'il y en a un seul qui avait pensé à demander ça à Dieu ? La Bible ne le dit pas. Moi, j'avoue, ça n'aurait peut-être pas été mes préoccupations premières. Je me retrouve dans le désert à marcher sous la conduite de Moïse. On s'inquiète pour l'eau, pour la nourriture, pour la sécurité. Dieu est allé jusque dans le détail. Même les sandales à leurs pieds n'étaient pas usées. À quel point Dieu s'exprime même dans les détails. n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Un jour, il y a un Anglais, il a une vision de Dieu, il veut aller évangéliser en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait un petit séjour, un petit passage par la France. Mais il maîtrise très très mal le français. Mais en attendant qu'il est là pour apprendre un peu la langue, etc., préparer son voyage missionnaire, il organise des réunions, il prêche l'évangile. Et des gens se sont convertis. Vous savez comment? En fait, les gens allaient l'écouter pour rigoler. Parce que cet homme parlait un français catastrophique et les gens se disaient dans le village, dans les petites villes où il passait, « Venez, on va aller écouter l'anglais, on se marre bien. » Et ils allaient, ils ne comprenaient pas grand-chose, mais la présence de Dieu se manifestait, des gens se sont convertis. Ouais. Le fruit de tout ça aujourd'hui, c'est la dénomination évangélique la plus grande de France. Vous imaginez un petit peu? Est-ce qu'à un moment donné, il s'est dit ça, ce frère? Non. Dieu peut tout ce qu'il veut. Mais on a besoin d'une parole de Dieu. Abraham a eu sa parole à lui. Ce qu'on appelle souvent le réma, vous voyez? Il a reçu quelque chose pour lui. On n'est pas tous appelés à partir en Canaan. Mon message aujourd'hui, l'interprétez pas mal, hein. Je ne suis pas en train de vous dire quittez l'île, déménagez, pas du tout. Mais tu as besoin d'une parole de Dieu. Je vous rassure, j'ai bientôt fini, mais je voudrais citer ce passage avec vous. C'est dans Matthieu 9, il dit ceci. Jésus s'en alla, en passant, il vit un homme assis au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. On a un homme qui est assis dans sa vie, dans son travail, dans son quotidien, ses responsabilités, sa vie de famille, bref, la vie normale, la vie qu'on a tous plus ou moins, vous voyez. Il est dans sa vie, il est assis, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de dynamique. Et là, il y a Jésus qui passe. C'est l'Esprit de Dieu qui souffle. Comme dans le livre de la Genèse, il se mouvait au-dessus des eaux. Il y a une dynamique, il y a un mouvement. Avec Dieu, ça bouge, il y a du déplacement, il se passe quelque chose. On n'a pas à le fabriquer, on a juste à entrer dans ça. Et Jésus passe et lui, il est assis. Dans sa vie, ça ne bouge pas. Alors, il y a peut-être de l'insatisfaction. Il y a peut-être de la déception. En plus, il fait un job, il n'est pas bien vu par tout le monde. Hein. Il travaille pour les impôts. Alors, pourquoi je dis qu'il n'est pas bien vu par tout le monde? Parce que les impôts, c'était pour qui? Est-ce que c'était pour la nation d'Israël? Ah non, c'était pour l'envahisseur, pour l'Empire romain. Autant vous dire qu'il est vraiment mal. Il est dans une vie où, écoutez, il a un job qu'il n'aime pas, les gens ne l'apprécient pas, ne le reconnaissent pas à sa juste valeur. Il est prisonnier d'une situation. Il n'y a pas de perspective. Imaginez aller retrouver du boulot. C'est comme ceux qui sortent de prison et qui doivent retrouver du boulot, se réinsérer dans la société. Je suis un repris de justice, j'envoie mon CV à une entreprise, il se passe quoi à votre avis la plupart des cas? C'est difficile. C'est difficile. Il y a des contextes où tu pars perdant. Tu n'as pas ce qu'il faut. Les autres ont plus que toi. Tu es obligé, pour le même résultat, de faire 10 fois plus d'efforts. Et Jésus, il est là, il passe. Ça se passe aujourd'hui, ça se passe maintenant. C'est le moment. Et la Bible dit que Jésus a vu cet homme, comme il te voit ce matin. Là que tu es assis sur ta chaise. Seigneur, tu as vu. Des prières que personne ne connaît, il les a entendues. De ce que tu n'as pas osé formuler, il l'a entendu. Il a entendu les reproches que tu lui fais. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, Dieu n'est pas un homme pour avoir peur des reproches que tu peux lui faire. Ouvre ton cœur. Oui, Dieu ne peut pas se tromper, Dieu est grand, Dieu est puissant et... Mais s'il est venu jusqu'à toi en la personne de Jésus, c'est parce que justement, il veut être proche. Et il a entendu les cris, les pleurs. Il a vu la souffrance. Parce que derrière l'homme qui pêche, derrière la femme qui se livre au péché, Dieu ne voit pas le péché seulement. Il comprend les causes. Il ne dit pas que tu as raison, mais il comprend. Il ne dit pas que c'est bien, il ne dit pas qu'il faut continuer. Pas du tout, mais il comprend. Parce que certains peuvent être dans des situations où ce que tu as fait, c'est tellement grave qu'aux yeux des hommes, c'est terminé. Tu as cédé à la violence, tu as commis l'irréparable, tu as cassé quelque chose. Dieu le sait et il condamne le péché, mais à aucun moment il a condamné le pécheur. Parce que Dieu est du côté de la victime. Alors je sais, ce n'est pas facile à entendre, hein, mais il est du côté de l'agresseur, de celui qui a fait le mal. Encore une fois, il ne justifie pas le mal. Hein. Dieu a en horreur le péché. Il faut avoir conscience de ça. Mais il est du côté de celui qui a fait mal aussi. Parce que si on reconnaît les souffrances de la victime, on ne reconnaît pas les souffrances de celui qui a fait le mal. Parce qu'il faut qu'il vive avec ça. Et pourquoi il s'enfonce toujours plus dans le mal ? Pour enfouir toujours plus ça. Dieu est allé le chercher. On ne sait pas comment il a fini à travailler pour l'envahisseur. On n'a pas les détails de sa vie. Vous savez quoi ? On n'a pas besoin de les savoir. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est entre Jésus et lui. Mais il l'a vu. Mais comment il l'a regardé ? Est-ce qu'après avoir commis le mal, tu supporterais les regards de Dieu sur toi ? Tu ne peux pas. Et pourtant, Dieu l'a regardé à travers les yeux de son Fils. Il l'a vu. Ce n'est pas « je te vois », tu as vu ce que tu n'es rien, tu mérites ce qui t'est arrivé. Non, il l'a vu, il l'a considéré. Il lui a donné de la valeur. Cet homme fait ce qui est mal, mais Dieu lui a redonné une dignité. Et il y a une parole de Dieu pour lui. Est-ce qu'on pourrait se recueillir juste quelques instants en prière ? Vous voulez bien ? Juste courber nos têtes, fermer nos yeux, comme un instant seul avec Dieu. Cette parole que Jésus a donnée à cet homme, c'est cette parole que Jésus veut te donner aujourd'hui. Et ça se passe là maintenant. Hein. Il te dit, suis-moi. Seigneur, il y a tout ça sur ma vie. Je ne peux pas te suivre. Quand Dieu parle, il y a une puissance. Il faut que tu comprennes ça. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance qui a créé ce monde, qui l'a ordonné, organisé. La puissance de Dieu nous dépasse tellement. Mais toute cette puissance, il la met au service de ton salut. Il la met au service du plan qu'il a tracé pour ta vie. Toute cette puissance, Seigneur dit, tu vois ça, je le prends. C'est trop lourd. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix ? La Bible dit, il s'est chargé de nos péchés, de nos fautes. Il a tout pris sur lui. Je t'invite à prendre juste un instant pour accepter le regard de Dieu sur ta vie. Il voit ce que les autres voient, il voit ce que les autres ne voient pas, il voit ce que tu veux cacher aux autres, il voit les raisons, il voit les causes, il voit les circonstances, il voit le déroulé de ta vie. Et pourtant, aujourd'hui encore, ce matin, Jésus te dit, suis-moi, fais-moi confiance, ose m'aimer, ose faire ce pas, il t'appelle par ton propre nom, il a vu cet homme, il l'a appelé par son nom. Et pendant qu'on est là en prière, je vais céder la place à notre pasteur pour qu'il puisse prier pour vous, conclure ce moment, mais puisses-tu entendre cette parole de Jésus pour toi. C'est aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe là maintenant. Jésus t'appelle.